Merci à toutes et à tous d'être présents. Je vais vous commencer tout de suite par vous présenter notre table d'intervenants pour parler du thème de ce jour, chic, la tactique des tic-tacs helvétiques. En caricaturant, on a dit tout à l'heure avec les intervenants, en ressortant d'ici ce soir, si vous avez de l'argent à investir, vous n'avez plus qu'à trouver un mécanicien horloger, un designer, un bâtiment industriel à la Chaux-de-Fonds. Vous demandez une campagne à M. Tadnikela et dans 6 mois, vous avez vos montres sur le marché avec succès. C'est pour la caricature, c'est bien plus compliqué que ça. Mais c'est un peu l'idée, c'est de voir un petit peu de façon générale comment expliquer ce succès permanent de l'horlogerie suisse. Alors, comme intervenant ce soir, Mme Nadège Souji, spécialiste de l'histoire du luxe, et elle précise plutôt des objets de qualité, elle nous expliquera pourquoi, de l'Institut d'Histoire de Neuchâtel. M. Jean-Daniel Pache, à côté d'elle, qu'on ne présente pas, président de la Fédération horlogère. Nicolas Hansens, de ce côté, qui a réalisé une thèse, je crois même une, sur le marketing horloger dans les pays émergents et spécifiquement en Chine. Michel Janot, tout au bout de la table, journaliste spécialisé à la tête du BIPH, le bureau de la presse horlogère, et fondateur de WTheJournal.com, site spécialisé de l'horlogerie. Il y a de cela une année. Juste à côté de moi, Marc Pfister, pour parler aussi de formation, de comment faire pour garder les meilleurs artisans, les meilleurs, notamment designers, dans la région. Donc, directeur de l'école d'art appliqué de la Chaux-de-Fonds. Je dois saluer aussi plusieurs personnalités dans l'assistance, dont M. Lats Kladny, que j'ai évoqué brièvement, qui est le CEO d'Inox, une agence qui a conçu des campagnes pour des maisons comme Chopard, Audemars Piguet, Jacques Hédreau, Tagueyère, c'est juste ? Et j'en passe quelques-unes. Des fois, il y a des secrets de maison. Certains, non, c'est bon. Et puis, des figures du monde horloger qui auraient souhaité être là, mais qui n'ont pas pu le faire. On avait approché M. Nick Hayek, qui a dû décliner l'invitation, mais qui a trouvé l'idée intéressante. M. Antonio Calce de Corom, qui vient de passer en main chinoise, pour la petite histoire, mais qui ne pouvait pas être là, et ce n'est pas à cause de ça qu'il n'est pas là ce soir. Ou encore le designer Rodolphe Catin. Donc, je l'ai dit, l'idée de ce café scientifique, c'est de décrypter les leviers, les recettes, les secrets qui permettent à nos horlogers, au-delà de l'histoire, du savoir-faire, de la tradition et des savoir-faire ancestraux, de dominer la planète avec leur garde temps. On a 75 minutes pour faire le tour de la question, ou plutôt du cadran. Je ne vous donnerai pas de chiffres, parce que M. Pache en aura sans doute des plus frais que moi à vous donner, mais tout de même, plutôt que de parler en francs et en milliards de francs, j'ai envie de sortir un chiffre en pièces, en nombre de montres. Et j'espère que je vais vous impressionner, parce que c'est impressionnant. En mars 2013, donc il y a de cela un mois, 2,1 millions de montres sont sorties de Suisse. On dit 2 millions. Ça fait un demi-million de montres par semaine, ça fait 70 000 montres par jour, et ça fait une montre par seconde. Chaque seconde, il y a une montre qui part. Et moi, ça me donne le vertige. Alors voilà. Comme toujours, le café scientifique colle à l'actualité. Le 7 mai, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a voté à 11 voix contre une le passage au taux de 60% pour le SwissMade. Le Conseil national avait dit oui en mars à 124 voix contre 67. C'est des mesures pour préserver, perpétuer. C'est aussi des mesures de défense. Mais avant de se pencher sur l'actu et le temps présent, je me tourne vers Nadège Souji pour lui demander de nous offrir un petit voyage et de remonter le temps et de nous dire si les talents d'exportateurs, des manufacturiers, des artisans, des orfèvriers, j'imagine qu'ils ne datent pas d'hier. Alors, un bref aperçu sur l'histoire des objets de luxe dans le temps et du marketing des objets de luxe. À vous.
Merci beaucoup pour cette invitation. Le défi est grand, parce qu'il faut non seulement remonter le temps, mais faire court. Alors, vous me pardonnerez déjà d'aller très très vite et peut-être de sombrer à la caricature. Il semble que, tout bêtement, quand un secteur réussit, c'est qu'il a déjà un certain savoir-faire. On sait fabriquer naturellement, on dirait presque de façon basique. On sait promouvoir des produits également. Et effectivement, ces deux paramètres-là qui sont des conditions indispensables pour qu'un secteur puisse se développer, eh bien, sont précocement réunis en Suisse, et en tout cas, on l'observe facilement dès le XVIIe siècle à Genève, avec effectivement une concentration de savoir-faire. Alors, que dire d'autre ? Dire que en 5 minutes, nous avons effectivement des savoir-faire qui mettent aussi en œuvre des savoir-faire artistiques. Donc, c'est un secteur qui mêle à la fois de très grosses compétences techniques et des techniques qui visent aussi à donner un caractère très esthétique, très artistique à ces produits qui sont, c'est aussi une originalité de ce produit, à la fois des produits de luxe, mais aussi des produits dont la consommation va se répandre d'une certaine façon, assez rapidement. En tout cas, on le voit à la fin du XVIIIe siècle, un célèbre historien, Daniel Roche, a repéré qu'entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, les noyés de la Seine portaient dans leur poche un nombre plus important à la fin du siècle de montres. Preuve s'il en est qu'il y a une forme de petite démocratisation qui est déjà à l'œuvre à ce moment-là. Alors, si l'on regarde aussi la spécificité du secteur, et cela précocement, naturellement, le marché nous dit aussi énormément de choses. C'est un produit qui est tourné à l'exportation, là aussi, après tout, je ne vous apprends rien. Mais il semble bien qu'un certain nombre d'entrepreneurs, d'horlogers, de maisons, vont progressivement et de façon assez précoce, là aussi, on a de très jolis témoignages dès le XVIIIe siècle et même la fin du XVIIe siècle, maîtriser, connaître, apprendre à cerner les goûts d'une partie des consommateurs. Cela implique naturellement des déplacements sur place, alors peut-être qu'il est un peu tôt pour parler de marketing, mais en tout cas, on voit bien que sont relevés régulièrement les goûts, les attentes du marché, avec des stratégies qui peuvent être assez contestées à l'heure actuelle, puisque pour s'immiscer dans un certain nombre de marchés déjà bien développés, notamment au XVIIIe siècle par des Anglais et des Français, une partie des fabricants, des horlogers, vont signer des montres de Londres ou de Paris pour les faire passer sur des marchés extérieurs. Donc vous le voyez, il y a là déjà des stratégies pour essayer de s'insérer sur ces marchés et puis très vite dépasser ces stades d'imitation ou de référence inspiratrice, c'est selon, et créer des modèles originaux qui vont naturellement aussi s'imposer sur des marchés et des marchés qui peuvent être très lointains. On pense souvent à la Chine pour le XIXe siècle. On pourrait aussi penser à la Turquie pour le XVIIIe siècle. Je fais référence là à la famille Rousseau, qui, le père de Jean-Jacques, va être très précocement régleur au palais de Topkapi. Et donc, on voit bien qu'il y a là une communauté qui va prendre place sur des lieux étrangers, à la fois pour assurer des maintenances, pour contrôler le réglage des produits, mais aussi, et c'est un fait vraiment très important qu'on retrouve de façon récurrente aussi pour le XIXe siècle, pour faire remonter les attentes des clients. Donc nous sommes bien avec des propositions un peu de sur-mesure qui vont se faire, adaptées à des marchés. On va jouer sur des matières, sur des esthétiques. Et peut-être que sur la même période, l'autre point, puisque je vois que le temps passe, qui semblerait important, c'est le repérage des produits. C'est qu'on se rend compte au XIXe siècle également, fin XIXe siècle, que ces produits deviennent identifiables avec tout un tas de stratégies. Et à partir des années 1880, on a un arsenal juridique qui va se mettre en place pour défendre par des poinçons, par des marques, par des labels, par un marquage, l'identité des produits, qu'ils soient poinçons de Genève ou qu'ils soient Swiss made. Donc voilà un peu pour cette lisibilité du marché pour ces produits suisses.
Merci pour ce petit préambule, déjà assez édifiant sur la genèse de toute une procédure, y compris avec les poinçons et l'identification. C'est vrai que ça participe de la dynamique. Alors, à côté de vous, monsieur Jean-Daniel Pache, vous avez, vous, tous les chiffres en main. Les tout derniers ne sont pas sortis, donc vous ne pouvez pas nous les donner. Mais quand même, ce début d'année le confirme. Il y a un léger fléchissement, mais on reste au sommet. Alors moi, ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est jusqu'à quand l'horlogerie suisse peut-elle cartonner de la sorte ? Est-ce que le filon va s'éteindre ? Est-ce qu'il n'y aura bientôt plus assez de poignets autour du globe pour enfiler les montres suisses ? Est-ce qu'on a déjà passé le pic ? Où en est-on ? Où va-t-on ?
Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir et je vais essayer de répondre à cette question très challenging. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite visible pour l'horlogerie suisse et là, je vais me permettre une provocation. Vous avez dit qu'on produit en Suisse une montre toutes les secondes, n'est-ce pas ? C'est le chiffre que vous avez donné. C'est peu, hein ? Les Chinois, ils en font 20 fois plus, n'est-ce pas ? Les Chinois, ils font 20 montres par seconde. Puisque l'année passée, la Chine a exporté 660 millions de montres et la Suisse en a exporté 29 millions. Donc, on a de la marge encore. Donc, d'une part, il y a le marché qui évolue, mais la Suisse peut augmenter sa part de marché dans les volumes. On peut augmenter les volumes. Donc, c'est pour ça que je dirais que à vue humaine, je ne vois pas de limite à la progression horlogère suisse. N'est-ce pas ? Si on prend la valeur, par contre, il y a une dizaine d'années à peu près, on a atteint le chiffre de 10 milliards de francs suisses par année, il y a à peu près 10 ans. Et bien, il y a 10 ans, personne n'aurait pensé que 10 ans après, on dépasserait 21 milliards. Donc, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on dépend évidemment de l'évolution de l'économie du monde, hein, de l'évolution des marchés émergents. On a parlé évidemment de la Chine qui depuis 10 ans a vécu une croissance assez formidable au niveau de son économie en général, mais au niveau de l'horlogerie. Hein, il y a 10 ans, on exportait en Chine à peu près pour 30 millions de montres, l'année passée pour plus d'un milliard, donc en l'espace de 10 ans. Maintenant, il y a le ralentissement que vous avez relevé, mais il reste un potentiel dans des marchés comme la Chine. Il y a des potentiels importants en Inde, par exemple. Il y a aussi une évolution dans un pays comme celui-là, avec 1,3 milliard d'habitants. Le développement en Inde est plus difficile. C'est lié notamment au système politique indien. C'est une démocratie. On sait que dans les démocraties, les choses vont plus lentement que dans les dictatures. Et puis, d'autres pays comme l'Indonésie, le Vietnam, l'Amérique latine. Donc, il y a des potentiels hein, pour le développement de l'horlogerie. 2012 a été une année record pour notre branche avec 21,4 milliards d'exportations. 2013 a démarré également de manière positive, mais nous sommes conscients que la croissance ne sera plus aussi forte qu'elle l'a été ces dernières années, c'est normal. Il y a un effet de base, on se compare à des années qui étaient excellentes, c'est toujours plus difficile de faire mieux. Il y a aussi la situation économique qui fait que la croissance est plus faible. Mais j'ai envie de dire que si en 2013 on fait mieux qu'en 2012, en soi, ça sera déjà un fantastique résultat.
Merci pour cet aperçu et surtout ces perspectives, je ne veux pas dire euphoriques, mais en tout cas ces perspectives d'avenir florissantes. Et c'est impressionnant la comparaison avec les chiffres chinois. Alors, à côté de Madame Tsuji, Nicolas Hansens, on vient de parler des marchés émergents. Jean-Daniel Pache a dit d'ailleurs que c'est plus difficile en Inde. Alors, on l'a dit en préambule, vous êtes spécialiste du marketing dans les marchés émergents. Est-ce que les horlogers suisses, les grands manufacturiers, savent s'adapter ? Est-ce qu'ils sont les caméléons du marketing pour convaincre, pour séduire aussi ces nouveaux marchés, ces nouveaux clients ?
Alors, pour répondre à cette question, je vais me permettre de prendre le cas de la Chine, sur lequel j'ai eu la chance de travailler pendant pas mal de temps au travers d'un projet de recherche. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à la base, on parle toujours du luxe comme étant un phénomène global, comme étant un phénomène qui véhicule une culture, des codes globaux, universaux. L'idée, à la base de ma recherche, ça a été de me dire, mais est-ce que finalement, le public chinois doit, ou est-ce qu'il est, abordé de façon globale, de la même façon qu'on aborderait un client aux États-Unis, aux Émirats arabes unis ? En réalité, je me suis rendu compte au travers de mes travaux de recherche que l'industrie horlogère avait utilisé toute une série de petites techniques d'adaptation marketing. Quand je parle d'adaptation marketing, je fais référence à tous les éléments du marketing, c'est-à-dire le produit, ça peut être également des jeux au niveau du prix, au niveau de la communication ou au niveau des formes de distribution. Je vais prendre ici trois exemples concrets qui permettent de comprendre comment l'industrie a percé le marché chinois, qui est un marché très compliqué, avec une grosses fractures culturelles que l'on connaît, par exemple, de par la distinction entre société collectiviste et société individualiste. On a par exemple retrouvé des traces de traduction de noms de marques. On peut s'imaginer que des marques comme Ulysse Nardin, Jagger le Coultre, ne sont pas très faciles à prononcer pour des gens qui parlent mandarin. La plupart des marques ont utilisé des noms avec des stratégies qui se cachent chaque fois derrière ces noms de marques, qui leur ont permis d'entrer dans l'univers sémantique des Chinois. On a d'autres adaptations également qui ont été utilisées par l'industrie horlogère, qui sont par exemple des adaptations au niveau du produit. Beaucoup de marques, même si certaines d'entre elles ne veulent pas nécessairement le mettre en avant, ont développé des collections de produits adressés à la Chine, par exemple en faisant référence au signe astrologique chinois, ou en travaillant sur des modèles de plus petite taille liés au poignet, tout simplement à la morphologie des Chinois. Donc voilà, on a toute une série d'adaptations qu'on a pu étudier empiriquement dans les différents travaux qu'on a réalisés. Et puis il y a encore, bien sûr, les publicités, où on savait à l'époque que, par exemple, l'association entre luxe et sport, qui est très courante ici, se faisait beaucoup moins là-bas en Chine, puisque le sport était considéré comme une activité pour le bas peuple. Donc, au départ, certaines entreprises qui ont bien cerné, on va dire les entreprises qui étaient les plus au clair avec ce marché, ont pris en considération ce genre d'éléments. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps. Il y a aussi d'autres stratégies, mais qui sont moins liées à l'adaptation, mais que je pense qu'elles sont importantes de noter. C'est tout le travail d'éducation qui a été fait par l'industrie horlogère, qui est extrêmement important. Pour transférer les valeurs de l'industrie horlogère suisse, nos entreprises ont utilisé différents outils, je vais en mentionner trois ici, qui sont notamment les flagship stores, donc les magasins en nom propre, des boutiques qui appartiennent directement à la marque, qui permettaient aux marques de diriger, de contrôler la communication qui était donnée aux consommateurs chinois. C'est un phénomène qui a été utilisé particulièrement en Chine comparé à d'autres marchés, bien que ça existe sur tous les marchés. Ils ont utilisé aussi très fortement ce qu'on appelle les roadshow, donc les marques voyageaient à travers le pays avec des expositions et faisaient rencontrer des clients particuliers avec des horlogers ou des gens de l'univers de la marque. Et puis on a aussi un autre phénomène qui est très intéressant en Chine, c'est l'univers de l'environnement expérientiel, donc les univers où le client ne se contente pas d'acheter un produit, mais vit une réelle expérience. Et je pense par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler du centre Vacheron Constantin à Shanghai, où vous pouvez vous faire couper la barbe, prendre un café, et puis descendre discuter avec un horloger, pour finalement ressortir de là avec une magnifique répétition minute, donc une superbe expérience. Si j'ai encore 30 secondes, je souhaiterais encore parler d'un dernier élément qui a été utilisé intensément par nos horlogers en Chine, c'est l'utilisation des stratégies d'ambassadeurs de marque. Il faut savoir, comme je l'ai dit un petit peu au départ, qu'on est dans le cadre d'une société collectiviste où la notion de statut, en tout cas à l'époque, dans les villes principales, était extrêmement importante. La montre est un des rares objets pour un homme qui permet d'afficher d'une certaine façon son statut social. Les vêtements sont souvent, les marques sont souvent dissimulées. Par contre, quand vous arrivez en réunion, une des choses qui va vous permettre de vous mettre en relation avec des groupes sociaux, eh bien, c'est votre montre. Et l'utilisation d'ambassadeurs a permis à certaines marques de cristalliser certaines associations entre la marque et des groupes sociaux bien déterminés. Et c'est pour ça qu'on retrouve, surtout au travers de l'analyse de contenu, de publicité ou de l'analyse d'articles là-bas en Chine, on remarque qu'il y a une utilisation très 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 forte par les marques qui ont eu beaucoup de succès d'ambassadeurs horlogers. Voilà.
Merci. Donc, en résumé, réponse, des bons caméléons du marketing
Des bons pour certains, moins bons pour d'autres.
D'accord. Michel Janot, qui est avec nous ce soir, c'est le spécialiste de la communication, donc le journaliste spécialisé. Alors, promotion, communication, publication, on l'a dit, vous êtes toujours à la tête du BIPH. Vous venez de lancer il y a une année le site wthejournal.com. Quel regard portez-vous sur cette horlogerie suisse championne du monde, et puis aussi peut-être qu'est-ce qui vous interpelle dans le regard par exemple de journalistes spécialisés chinois que vous croisez dans des grands salons à Baselworld ou ailleurs sur cette horlogerie suisse.
Bonsoir, peut-être tout d'abord On parle de l'horlogerie suisse championne du monde, très bien. Il faut peut-être rappeler en quelques mots que ça n'a pas toujours été le cas et qu'il y a eu des périodes qui ont été beaucoup plus difficiles. Et peut-être faut resituer ça, parce que j'aime toujours bien parler de l'horlogerie, quand même, de cette industrie qui vit d'un objet qui est devenu totalement inutile. Et c'est quand même ça le paradoxe aujourd'hui de cette industrie qui vole de record en record, c'est que plus c'est inutile, plus on arrive à vendre ces objets qui donnent l'heure par ailleurs et qui donnent aussi un statut symbole important. Et donc peut-être revenons un tout petit peu en arrière, et juste avant la crise du quartz, on était l'horlogerie occupait à peu près 90 000 personnes. Quelques années plus tard, on est tombé à 29 000. Donc voilà, le triomphe là était assez modeste, il est un peu moins aujourd'hui, et on est, selon les derniers chiffres à peu près, l'horlogerie à la microtechnique occupe à peu près 52 000 personnes, emploi direct dans la région, 15 000 dans le canton de Neuchâtel, c'est le canton le plus horloger de Suisse, et ça continue à monter, donc c'est essentiel pour la région, pour le tissu industriel de la région. Et quand on voit l'horlogerie uniquement sur le côté futile, ou certains voient l'horlogerie uniquement dans le côté futile, j'aime toujours bien ramener les choses à la réalité. Il y a des emplois, il y a 50 000 emplois entre Genève et Schaffhouse, plus tous les emplois indirects, les communicateurs, les journalistes, les chercheurs, les hôteliers, les graphistes, les photographes, bon bref, les constructeurs de stands. Il y a énormément de gens dans cette région qui vivent de l'horlogerie, directement ou indirectement. Donc c'est fondamental, et les succès, on peut évidemment s'en réjouir. Les chiffres ne cessent d'augmenter. Il y a un chiffre quand même qui n'augmente pas beaucoup, c'est celui du nombre de montres vendues. En l'an 2000, on vendait 30 millions de montres en Suisse. En 2012, on en a vendu 29 millions. Donc, ce n'est pas un succès de ce côté-là. Sur les 29 millions, il y a probablement 14 millions de Swatch. C'est dire que le reste, c'est 16 millions. C'est important. C'est même fondamental pour la branche, mais ça reste une petite industrie. C'est fondamental pour cette région. J'ai encore juste utilisé une comparaison, parce que à la fois c'est fondamental pour cette région, mais c'est une toute petite industrie, une industrie de niche, et c'est peut-être ce qui explique le succès aujourd'hui de cette industrie dans une économie qui est complètement essoufflée. Si on compare l'horlogerie suisse à l'industrie automobile, j'aime bien faire cette comparaison, les rapports sont invraisemblables. L'horlogerie suisse exporte ou produit par année ce que l'automobile mondiale produit en un jour, en valeur. Donc c'est vraiment, on reste sur une toute petite industrie. Vous parliez tout à l'heure d'une montre par seconde. Je crois que l'industrie automobile, c'est 6 voitures par seconde. Et on est dans d'autres rapports. Et les 20 milliards, si on compare les 20 milliards de l'horlogerie suisse à un groupe comme Toyota, Toyota c'est 200 milliards de chiffre d'affaires ou plus, c'est 350 000 employés. Donc on est vraiment, quand on parle d'horlogerie, on parle d'un épiphénomène, d'un mini-phénomène, d'un micro-phénomène. Et c'est toujours bien de le rappeler. Donc effectivement, je partage quand même l'analyse de Jean-Daniel Pache. L'horlogerie à l'avenir, et cette horlogerie-là a encore un avenir, parce que le potentiel est loin d'être épuisé. On commence à peine sur beaucoup de marchés, même sur des marchés qu'on dit matures, qui étaient déjà les premiers pays débouchés de l'horlogerie suisse, les États-Unis par exemple, il y a quelques années. Il y a encore tout à faire, et donc pour la haute horlogerie, je crois qu'il y a encore de belles années, même si elle est évidente, elle ne va pas pouvoir progresser de 20% par an, et probablement tant mieux.
Je vous remercie. On reviendra vers vous tout à l'heure, peut-être sur le regard des journalistes spécialisés d'autres pays sur l'horlogerie suisse, mais on y reviendra tout à l'heure, d'accord ? Pour assurer l'avenir, les succès qui restent à venir, les marchés qui restent à conquérir, le meilleur moyen, c'est encore de garder la main, de former ici les créateurs et les designers de demain. Alors Marc Pfister, vous avez lancé à l'École d'art de la Chaux-de-Fonds en 2009 une filière de formation pour des designers horlogers, qualifié d'unique au monde. Alors pourquoi unique au monde, et surtout pourquoi en 2009 seulement, quand on sait cette immense histoire horlogère qu'il y a derrière nous ?
Pourquoi en 2009 ? Je crois que Jean-Daniel Pinch a en partie répondu à cette question. Il se trouve que malheureusement, la Suisse est une démocratie et puis pas une dictature. Et puis le canton aussi. Ce qui fait que ça prend un certain temps à monter une infrastructure de qualité au niveau professionnel. Ce qui fait que il faut de temps en temps savoir laisser le temps au temps, et puis aussi d'un point de vue politique, c'est pas le but ici, mais de savoir saisir des opportunités quand elles se présentent dans un canton qui à l'époque et toujours a rencontré de grosses difficultés financières, où il était exclu de monter une quelconque filière dans quelque domaine que ce soit. Ce qui fait que ce projet, en fait, il a été mis par moi-même sur la table en 2007. Parce qu'il s'agissait pour moi, pendant 2 ans, de partir avec mon bâton de pèlerin à Berne pour constituer en fait le cadre réglementaire au niveau fédéral pour monter ce type de filière. Voilà pour la petite histoire. En clair, pour te paraphraser, quand tu dis qu'en 6 mois, les gens ici, au sortir de cette séance, vont pouvoir monter leur entreprise, eh bien, dans le public et puis dans le domaine de la formation, on compte plutôt en années. Cela étant dit, on a été, compte tenu des circonstances, très, très rapides. Il y a effectivement un énorme enjeu à monter une filière de designers d'objets horlogers. Donc comprenez bien que ces designers-là s'occupent uniquement de l'habillage de la montre. Ils peuvent toucher éventuellement le mouvement, mais le cœur de la montre, ce n'est pas leur prérogative, hein. C'est vraiment tout ce qui a trait à l'habillage de la montre. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une valeur ajoutée à l'habillage de la montre qui est phénoménale, parce que, bien sûr, la montre ne vous dit pas seulement quelle heure il est, mais elle vous dit, selon le slogan bien connu, elle vous dit aussi qui vous êtes. Bien sûr, il y a des effets de pouvoir, là derrière, mais l'élément déclencheur pour l'acheteur, c'est quand même ce qu'il voit. Et puis ça c'est fondamental. Et il faut savoir que jusqu'en 2009, l'essentiel des créateurs, que ce soit des agences indépendantes ou bien les départements créatifs des manufactures, utilisaient principalement des bijoutiers qui se sont formés sur le tard, qui sont intéressés aux produits horlogers et qui, peu à peu, sont devenus qui designers, qui prototypistes. Bien évidemment, il y a de temps en temps, et nos chers manufacturiers se gargarisent, certains, « Ah non, mais nous, le design, on le fait à New York, à Milan, à Londres. » C'est énormément de baratin, ça c'est du marketing pur. L'essentiel du design des montres suisses se fait en fait en Suisse. On fait parfois appel à des designers industriels ou bien à des architectes, mais un des gros problèmes qui se rencontrent souvent, c'est que ces gens-là font d'excellents dessins, des choses très intéressantes, et puis leur joli croquis passe dans un bureau technique, et puis c'est là que ça se gâte, parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement la multitude de contraintes liées aux produits horlogers, par exemple qu'un index il a une certaine épaisseur, et puis que la glace ben, elle doit tenir dessus, etc. Il y a des contraintes ergonomiques, enfin bref. Et cette formation est née du constat, en fait, d'un chaînon manquant de designers d'objets horlogers spécialisés là-dedans. Donc à l'école d'art appliqué de la Chaux-de-Fonds, on ne forme, c'est une formation supérieure, hein, mais on ne forme que des gens qui travaillent l'objet horloger. Et puis, avec dans le cadre de leur cursus, un fort point aussi à l'acquisition de connaissances sur les contraintes et exigences du produit horloger. Et puis, dans nos ateliers, en fait, on fait travailler en parallèle un designer avec un prototypiste pour intégrer ces deux phases qui souvent sont séparées. Donc, ils travaillent de concert pour former des gens qui arriveront dans des manufactures avec une excellente connaissance du produit et de ses techniques, et puis avec des capacités sur le plan créatif et puis sur le plan de la conception et design.
Et avec des propositions qui sont immédiatement réalisables Et qui ne doivent pas être recalés, retravaillés parce qu'il y a des contraintes qu'on peut être respectées.
Alors, en disant que c'est une formation unique au monde, oui, je le dis haut et fort, sous cette forme-là, vous n'en trouverez pas une nulle part ailleurs pour le moment. Dans la mesure où non seulement ils sont entraînés à la conception et au design, mais à chaque fois, ils doivent réaliser eux-mêmes, dans nos locaux, le prototype fonctionnel.
Je vous remercie. Juste avant de lancer l'interaction avec le public, avec les questions, et pour le faire plutôt, je vais passer la parole à M. Latskladny, qui est le CEO de Inox, l'agence neuchâteloise. Alors, on ne va pas les citer, mais vous avez travaillé avec des grandes marques, avec des grandes campagnes. Moi, j'ai le souvenir de la fameuse avec Eva Herzigova et la pluie de diamants. Hein, c'était assez phénoménal. Alors, quand vous devez concevoir une campagne pour ces grands manufacturiers, est-ce que c'est des clients comme les autres à qui vous devez un peu tout apprendre, ou tout recadrer ou tout canaliser les idées? Ou est-ce que ces manufacturiers ont déjà un sens particulièrement aiguisé de la communication? Est-ce qu'ils ont aussi le savoir-faire, je vous donne mon micro, le savoir-faire qui fait mouche en termes de communication?
Bonsoir, merci pour l'invitation. Les marques horlogères sont des clients un peu spéciaux parce que, comme l'a dit Michel Jeannot, ils doivent créer beaucoup de valeur ajoutée puisque c'est devenu des objets inutiles, si on peut les définir comme ça. Donc la marque doit inventer et doit créer des émotions qui vont déclencher l'acte d'achat. Et ces émotions-là, elles sont bien sûr autour du produit, donc élément essentiel, le travail horloger, bien sûr, et puis le design de la montre, puisque c'est finalement, on tombe amoureux d'un produit. Mais la marque elle-même doit faire un grand travail. Toutes les marques horlogères ne sont pas égales, vous avez cité plusieurs marques, elles ont des tailles différentes, évidemment, mais elles ont toute une conscience de leur marketing. Et en tout cas, celles qui ont du succès, elles maîtrisent leur histoire. C'est-à-dire leur histoire, pas seulement passée, mais ce qu'elles racontent. Et puis, le travail est très important d'amener beaucoup de cohérence puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de canaux à travers lesquels la marque se montre, ben évidemment le produit, on a parlé des magasins, des flagships, donc de la publicité sur le lieu de vente, les foires d'horlogerie, les annonces, les films, les sites internet, etc. Et elles doivent maîtriser leur histoire pour avoir un discours cohérent. Donc, pour répondre à votre question, simplement, je dirais que les marques, sans trahir de grands secrets, consacrent 10% pour les marques très conservatives dans leur marketing, jusqu'à 20%, peut-être des fois plus. Donc, elles consacrent beaucoup, beaucoup de budget pour communiquer et créer de la valeur ajoutée.
Et l'idée qu'ils vous soumettent au départ et l'idée que vous réalisez au final, est-ce que c'est très différent ou est-ce que vous arrivez à répondre? Est-ce qu'ils sont au départ, pour parler un peu prosaïquement, à côté de la plaque?
Non, je crois que les horlogers sont assez conscients de leur marché. Il peut y avoir de la confusion, c'est-à-dire qu'on ne communique pas la même chose sur des marchés émergents comme dans des marchés matures, mais globalement, ils sont assez conscients de leur marché, en tout cas des demandes du marché. Notre travail consiste à mettre de l'ordre et des priorités dans ces idées-là. On doit faire un travail créatif, donc évidemment qu'il y a une partie de mystère jusqu'à qu'on dévoile une campagne. Et puis, ils ont plutôt des demandes qui sont plus général, si vous avez cité Chopard, c'était une marque jusqu'à qui nous mandate qui communiquait exclusivement en publicité sur leurs produits. Ils n'ont jamais incarné la marque. Donc le mandat, il était de glamouriser et d'incarner à travers une personnalité dans la publicité. C'était un relais à leurs activités de relations publiques qu'ils font comme dans le cinéma ou bien à travers les stars, comme ils font à Cannes par exemple, puisque c'était un petit peu le départ de ce concept-là.
Merci. Alors voilà, est-ce qu'il y a à ce stade des questions ou des interventions dans le public? Oui, monsieur, on va vous passer le micro un instant. Si vous pouvez juste nous indiquer votre rapport à l'horlogerie, si vous êtes dans la branche,
alors,
si vous êtes observateur.
Totalement outsider. Je suis inventeur en mobilité, en mécanique. Par contre, la Swatch m'intéresse. En tant que premier organe artificiel que l'être humain est d'accord de porter sur lui, 24 heures sur 24, 6 jours sur 6, à longueur d'année, jour et nuit, comme moi. à la piscine, sous la douche. On ne s'occupe pas de la réparation. Elle est étanche, on sait qu'elle est étanche. Bon, la Swatch, que j'appellerais, ce n'est pas partie des montres inutiles, certainement pas, c'est tout à l'opposé. C'est vraiment ce que moi j'appelle l'orthoproduit horloger, pour le moment. On ne sait pas pour combien de temps. Petite allusion à AeroWatch et Toshiba. Maintenant, ça fait longtemps que j'ai une hypothèse qui me trotte dans la tête au sujet de la Swatch. Et maintenant, les chiffres que M. Pache a donnés tout au début de son discours, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont importants, puisqu'il a choisi de les citer en premier. Suisse, 1 million de montres secondes. Chine, 20, non. Une montre seconde. Chine, 20 montres secondes. Alors, ma question aux spécialistes qui sont ici présents, je profite de leur présence, pour savoir si cette hypothèse est complètement à côté de la plaque ou au contraire plausible. Si Nicolas Hayek avait vendu la Swatch comme Migros l'avant, c'est-à-dire à peu près une dizaine de modèles, une seule couleur, beige clair, les autres jouent avec noir-blanc, contraste maximal, cadran blanc, aiguille noire, ou l'inverse, est-ce qu'on pourrait penser qu'aujourd'hui, il aurait vendu 10 fois plus de montres, entre 10 et 15 francs, et que les actionnaires auraient paradoxalement touché encore plus de dividendes? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que quelqu'un peut a le courage de confirmer une telle hypothèse?
Donc on joue encore plus sur la masse, sur le nombre, sur la quantité. Alors peut-être M. Pache d'abord.
Je ne peux pas répondre à cette question, mais enfin, disons que je n'ai pas la réponse à votre question, mais n'est-ce pas, quand vous lancez un produit, ben vous visez un marché, vous visez un prix, il faut aussi voir le contexte dans lequel on était à l'époque, on était en pleine crise, il fallait trouver un produit qui puisse être fabriqué en Suisse assez rapidement, donc je ne sais pas s'il était possible à l'époque de fabriquer un produit pour 15 francs prix public, hein, dans le contexte de l'époque. Et puis finalement... votre marque, ce n'est pas forcément la quantité qui fait le succès. Hein. Si j'ai parlé de 600 millions de montres chinoises, ce n'est pas une seule entreprise, c'est une multitude d'entreprises qui font ces produits-là. Donc je ne suis pas persuadé qu'en vendant 10 fois plus de Swatch à 15 francs, qu'on arrive à un meilleur résultat. Il faudrait justement faire une analyse de marché. Est-ce que le marché peut absorber cette augmentation de produits? Est-ce qu'il y a un intérêt? Vous avez parlé d'une seule couleur. Je ne suis pas sûr qu'une seule couleur aurait satisfait tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas le beige. Donc vous auriez déjà été privé de ces consommateurs-là, ceux qui n'aiment pas le beige, n'est-ce pas? Un des succès de la Swatch, ça a été quand même la multitude des collections, hein, puisque je crois qu'il y avait à peu près 2 collections par année. Une multitude de couleurs, de formes, de design. Donc ça a aussi contribué au succès. Donc je suis absolument pas certain que votre hypothèse est la bonne.
Merci, Monsieur Clabou.
Je vous remercie quand même de citer la Swatch puisqu'elle est quand même le symbole du renouveau de l'horlogerie. Ce que a réussi à faire Swatch, c'est quand même de créer une immense valeur ajoutée dans un produit qui était relativement bon marché. C'est-à-dire que même à 50 francs. C'était une montre qui avait déjà beaucoup de valeur ajoutée à ce prix-là, puisqu'elle coûtait beaucoup moins cher à sa fabrication. Je crois que le grand succès de Swatch, c'est qu'elle a créé une émotion auprès du public. Les gens ont adhéré à ce produit au-delà de sa fonction. C'est vrai, elle a une fonction. Je n'aime pas le mot inutile, à part ça, il n'est pas très bien choisi, je m'en excuse. Ce n'est pas des objets inutiles, mais d'avoir l'heure, on a tous l'heure partout. C'est un sens-là qui devient un peu plus futile. Mais la Swatch, vraiment... ils ont introduit une forme de marketing moderne dans le monde horloger. Puisqu'ils ont réussi à développer une grande multitude de produits, ils ont amené cette idée de séries limitées qui ont déclenché des hystéries collectives chez les collectionneurs. Ils ont réussi à, sur la base d'un seul produit, d'une mécanique, à créer un environnement de marque. Ils ont réussi à amener les jeunes à consommer des produits horlogers. Ils ont réussi à amener des gens extrêmement fortunés à porter des montres à 100 francs. Donc, ils ont réussi à faire beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'on peut émettre des hypothèses sur le fait de savoir s'ils avaient fait plus d'argent ou moins d'argent, je ne peux pas tellement répondre. Mais en tout cas, c'est vraiment une montre qui a amené l'horlogerie dans le marketing moderne, en tout cas dans sa forme actuelle. Je suis absolument persuadé de ça.
Merci. Madame Sougy ?
Oui, peut-être pour rebondir sur cette intervention. Ce qui est intéressant dans le cas Swatch, me semble-t-il, c'est qu'il y a un lien entre, qui est fait entre l'horlogerie et la mode. Entendons par là le renouvellement de formes esthétiques, la création de collections, de séries, qui met à la portée de chacun des produits qui sont effectivement accessibles, mais qu'on va renouveler non pas parce qu'ils sont usés, mais parce qu'ils ne sont pas dans les tendances que l'on souhaite voir, soit parce que ce n'est pas la saison, soit parce qu'il y a effectivement un créateur qui joue le jeu d'un design spécifique. Voilà, à mon sens, la nouveauté. Et c'est en partie sur ces ressorts-là que fonctionne le renouvellement de la production. Car effectivement, les montres qui sont dites de qualité ont une fiabilité et on espère une pérennité assez importante. Donc c'est bien sur un autre ressort que se fait l'engouement pour ces produits, et c'est l'engouement pour des produits qui vont être renouvelés du fait de tendances et de ce jeu de mode. C'est une très bonne stratégie de producteur, la mode, hein. C'est pas autre chose, c'est pas un phénomène social, c'est une stratégie de producteur. Rendre obsolescent un produit qui n'est pas usé, mais qu'on va changer parce que, justement, on veut coller à des tendances plus contemporaines.
Merci. Autre question, autre remarque ? Oui, monsieur, on va vous passer le micro un instant.
C'est parce qu'il y a un enregistrement, donc si vous êtes dans le micro, on vous entend
merci.
Bien.
Merci. Je vais même élever contre le terme qu'une montre est inutile. Je ne pense pas. Parce que alors, beaucoup de choses seraient inutiles, même d'être ici. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, sur les X millions, milliards de montres fabriquées en Chine, j'aimerais savoir combien il y a de contrefaçons de nos propres produits.
Alors, bon, monsieur Pache, juste peut-être avant de vous faire répondre, j'avais un chiffre que je trouve, moi, un peu méconnu, puis que je voulais citer pendant la discussion, je le donne maintenant, pour montrer que l'horlogerie suisse ne reste pas les bras croisés, on le sait, hein, sur les contrefaçons, mais j'ai vu que en 2 jours, aux aéroports de Bâle et Zurich, avant Baselworld, 250 montres ont été saisies. Elles étaient indûment marquées Genève ou Swiss Made. Donc, la lutte existe. Alors maintenant, la proportion de contrefaçons dans les chiffres chinois, monsieur Pache, je ne sais pas si on a une idée.
Alors, en fait, en principe, dans les chiffres que j'ai cités, il n'y a pas de contrefaçons parce que c'est les chiffres officiels, alors que les contrefaçons échappent aux chiffres officiels puisqu'ils sortent du pays. Pas dire sous les sapins, je ne sais pas s'il y en a partout en Chine, mais en tout cas en contrebande, et ils entrent dans les autres pays de manière inofficielle. Donc dans les 660 millions, ce sont des montres officiellement déclarées qui quittent la Chine. À cela, il faut ajouter les contrefaçons, effectivement, qui se comptent par dizaines de millions.
Donc dizaines de millions.
De pièces, oui.
Voilà. Oui, alors, monsieur Hansen.
Un petit commentaire au concept d'inutilité, parce que j'avoue, comme vous, monsieur, je m'insurge un peu quand j'entends parler d'inutilité dans l'horlogerie. On peut aborder ça avec des concepts marketing assez simples. En fait, on ne doit pas regarder un objet seulement pour son aspect fonctionnel. Un objet répond à plein de demandes, à plein de besoins qui ne sont pas nécessairement des besoins physiques. Ça peut être des besoins d'estime de soi, ça peut être toutes sortes de facteurs et d'éléments psychologiques et auquel la montre est un symbole, un icône qui répond à énormément de ces besoins psychologiques. J'ai parlé de notions de statutaires, mais je pense aussi à, il y a certainement parmi vous dans la pièce des gens qui ont cette passion fétichiste de l'objet, qui n'a rien à voir avec une vision fonctionnelle de la chose. Quand quelqu'un s'offre un abat-jour d'un très grand designer, il n'est pas en train d'acheter la fonctionnalité de l'abat-jour. Il répond en tout cas à certains besoins en tant que consommateur, à certaines nécessités pour lui, qui sont des besoins d'estime de soi ou des besoins, ou autrement parfait, en cours de marketing.
C'était presque blasphématoire de dire que la montre était inutile. Voilà. Monsieur Page, je voulais ajouter quelque chose.
Effectivement, c'est une provocation, mais c'est quand même un grand challenge pour l'industrie horlogère en général, l'industrie horlogère suisse en particulier. C'est aussi des problèmes qu'on discute avec les horlogers d'autres pays, on a des contacts avec les Indiens, les Coréens, ils ont cette préoccupation de se dire, mais est-ce que les gens vont toujours acheter des montres parce que il n'y a plus la nécessité d'avoir une montre pour avoir l'heure, en fait, c'est ça. Alors qu'à une époque, c'était le cas, parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'autres objets portables pour avoir l'heure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisqu'il y a les portables et les mobiles. Et il faut mettre en avant les autres fonctions que M. Hansen a évoquées. Et c'est là que la magie des marques joue un rôle. Et c'est peut-être là aussi où nous avons une certaine avance en Suisse, avec la force de nos marques, par rapport à des concurrents qui n'ont peut-être pas encore cette force-là, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que la montre, si on l'achète, c'est qu'elle répond à un besoin. Mais ce n'est pas forcément celui d'avoir l'heure sur le bras.
Donc, une des clés de succès de l'horlogerie suisse, c'est ce talent, cette capacité à ajouter de l'émotion, du rêve, autre chose que la fonctionnalité. C'est ça, vous dites.
Absolument, absolument, effectivement. Créer ce rêve, cette émotion, le bel objet. Et puis cette cohérence. Des collègues tout à l'heure ont parlé de la cohérence. Et je pense que c'est un des grands succès de l'horloger suisse. C'est la cohérence dans l'histoire, mais aussi dans l'histoire qu'elle veut raconter. Et c'est lent à placer une marque là où on veut l'amener. Et de nouveau, c'est peut-être là où nous avons un avantage sur certains concurrents asiatiques qui ont de la peine à accepter cette cohérence. N'est-ce pas ? Ils veulent aller peut-être trop vite, alors qu'il faut donner du temps au temps pour positionner une marque. Ouais. Voilà, mais je crois que c'est tout à fait juste. Cette notion de cohérence est fondamentale. Donc. Et sachons profiter de tels avantages.
Donc autant pour créer une nouvelle filière de formation que pour créer un nom, une marque sur le long terme. Michel Janot ?
Oui, j'ai utilisé ce qualificatif d'inutile. Je pensais bien que c'était une provocation. Mais ce que je voulais quand même effectivement dire et qui me semble important, c'est que la fonction première de la montre, c'était quand même de donner l'heure. Et aujourd'hui, ça n'est plus la raison première de l'achat de la montre. Cela dit, même si je continue à penser du coup que l'objet est moins utile qu'il l'était auparavant, ça n'empêche pas qu'il a une valeur énorme. Et c'est ça, on ne vend pas, les horlogers ne vendent pas que du rêve ou que du vent. Ils vendent un véritable objet, un objet d'art. Il suffit d'aller, les gens qui ont la chance ou le privilège d'aller visiter des manufactures, on voit des gens qui travaillent sur ces pièces, etc. C'est pas du vent, on vend pas que de l'émotion, on vend pas que du rêve, on vend un véritable objet, on vend des heures de travail, des savoir-faire invraisemblables. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est en ça que l'horlogerie suisse est aussi différente de l'horlogerie chinoise. Ces savoir-faire, ils vont les acquérir, évidemment. Mais pour l'instant, ils n'ont ni l'image, ni encore tout à fait le savoir-faire. Mais ils vont l'avoir bientôt. Mais aujourd'hui, la Suisse, c'est ça la chance de l'horlogerie suisse, c'est qu'elle n'a pas de concurrents. Les concurrents de la haute horlogerie suisse n'existent pas ailleurs qu'en Suisse. Alors, il y a évidemment quelques manufactures intéressantes ailleurs, mais globalement, le marché, il est en Suisse. Et c'est ça qui est intéressant et fascinant dans cette industrie.
Je vous remercie. Autre question, autre intervention. Oui, madame.
Oui, Raymond Vicky, aucune accointance avec l'horlogerie. D'ailleurs, je ne porte pas de montre. Il y en a assez ici pour me donner l'heure et j'ai un téléphone portable qui me rend beaucoup de services. Et voilà, quand tu as l'estime de moi, ça va sans, quoi. Donc, pour certaines personnes, ça peut être inutile. J'aimerais juste relever deux termes qui ont été utilisés, c'est maîtriser l'histoire de la montre. La montre qui a du succès, c'est ce que vous avez dit, monsieur, c'est celle qui maîtrise son histoire. Et j'aimerais que madame Nadège Surgi, qui est historienne, nous dise de ce qu'elle pense de cette utilisation marketing de quelque chose qui est quelque part aussi votre gagne-pain, mais votre discipline. Et comment vous pensez que l'on peut maîtriser l'histoire ?
En fait, les manufactures devraient recourir à vos services pour maîtriser leur histoire.
Je ne suis pas sûre. C'est une très jolie question et je ne suis pas sûre que je vais vous remercier de me l'avoir posée. Il y a différents moments pour écrire l'histoire. Et il y a des objectifs différents pour l'écrire. Les marques, naturellement, s'emparent d'un moment de communication et donc vont utiliser des éléments qu'ils vont puiser naturellement dans leur patrimoine avec un discours qui sera adapté aux circonstances actuelles Ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous sommes effectivement, nous chercheurs, dans un autre objectif, qui est non pas d'être exhaustif ou d'avoir une idée sur une vérité donnée, mais nous sommes sans ces contraintes de discussion d'un contemporain présent. En d'autres termes, effectivement, quand nous voyons des marques qui se revendiquent d'une origine, même si elles ont été effectivement, si la marque a été déposée au XVIIIe siècle et qu'elle n'a pas été développée au XVIIIe siècle et qu'elle a été reprise en main au XXe, voire au XXIe siècle, nous sommes bien dans une histoire qu'on se raconte. Nous ne sommes pas dans l'histoire. Mais qu'est-ce que nous dit cette façon d'interpréter et d'utiliser l'histoire dans ce secteur ? C'est peut-être ça qui est intéressant. Et on a quand même l'impression que toute cette force de discussion, toute cette volonté de se raconter une histoire, d'imaginer, de créer un discours, nous dit très bien une forme de créativité, disons-le comme ça, nous dit très bien une façon de s'inventer un univers et d'essayer de le vendre. Donc du coup, je fais bien la part des choses entre ce que nous pouvons faire en tant que scientifiques sur la création des images. Comment est-ce qu'une industrie se dote d'une image à un moment donné ? Le fait que ce soit en période de crise ou pas change la donne pour les professionnels, mais les enjeux sont tout à fait différents. Hein ? Il a été rappelé ici l'importance des emplois qui sont derrière, et donc on comprend bien qu'il y a un habillage. Mais je suis d'une certaine façon assez épatée de voir comment un secteur peut s'emparer et construire un discours, alors qui n'est pas nécessairement lié à une science ou à celle que je défends, mais qui génère justement une image et véhicule des propriétés à des produits. Depuis le début, ce que j'observe, c'est que, par exemple, nous avons parlé de la qualité des produits. Moi, je travaille sur la qualité des produits. J'aimerais savoir ce que vous entendez par qualité. Et tous, vous entendez haute qualité, naturellement. Ce n'est pas du tout la même chose de parler de la haute horlogerie et de parler de montres bon marché. À la fin du mois, le Musée international de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds va inaugurer une exposition consacrée à un inventeur qui a fait la montre du prolétaire. Je veux dire par là que nous sommes avec des stratégies qui sont beaucoup plus fines. Monsieur a rappelé dans sa première intervention l'importance de Swatch. Nous sommes avec des produits accessibles qui visent une clientèle très large. Donc, nous nous racontons l'horlogerie suisse par le haut du panier quand elle est aussi largement innovatrice sur des secteurs de gamme qui sont beaucoup plus communs et qui sont une force de frappe également. Dans les chiffres qui ont été donnés, on ne distingue pas les différences de qualité, les différences de gamme, j'entends, de variété. Or, on voit bien que sur toute la durée, pour autant au XVIIIe et au XIXe siècle, on voit bien qu'il y a des tentatives pour faire des montres à des prix modiques et des montres qui donnent l'heure, qui sont très utiles, qui peuvent avoir des aspects esthétiques. Mais du coup, ce sont des histoires qu'on ne raconte pas de la même façon. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui. Oui.
J'ai dit, les marques maîtrisent leur histoire, pas maîtriser l'histoire, ce qui est totalement différent. Et puis, je citerai une marque, je ne travaille pas pour elle, donc je suis assez à l'aise, Breitling. Breitling a fait des instruments de mesure pour l'aviation. Ils ont fait des objets fonctionnels, de par le passé. Ils ont une très longue histoire. Ils ont fait ça, ils sont arrivés dans la crise horlogère avec un esprit de faire des objets fonctionnels pour l'aviation. Ils auraient fait quand même des objets un petit peu plus luxueux, mais ce n'était pas ça leur fond de commerce. Avec le développement des technologies, en particulier dans l'aviation, vous imaginez bien qu'une montre au poignet n'est pas aussi précise que les instruments de mesure que les pilotes de chasse ou les pilotes ont. Reste que l'univers de l'aviation est un univers qui fascine les gens. Ils ont continué à explorer et à maîtriser l'histoire de l'aviation. Ils se sont appropriés une partie de l'histoire de l'aviation. Ils sont, et ça fonctionne parce qu'ils sont très cohérents dans leurs produits. Ils font encore des produits compliqués, de très très haute qualité, mais ils ont créé une valeur ajoutée plutôt sur l'envie des gens d'accéder un petit peu à cet univers. Donc ils maîtrisent leur histoire d'une nouvelle manière, ils se sont renouvelés. C'est dans ce sens-là que j'entendais mon discours sur la cohérence d'une marque.
Quand on a une Breitling, on est un peu pilote d'avion. Oui, je vais garder le micro. Alors, monsieur d'abord.
Moi, j'avais une question. Je travaille dans l'horlogerie, donc je suis fabricant de composants de mouvement. Mais j'avais une question sur, pour rebondir un peu sur ce que disait M. Jeannot aussi, sur qu'est-ce que vous pensez du phénomène de concentration des marques à l'intérieur de groupes, qui, pour en tout cas deux d'entre eux importants, sont d'ailleurs pas suisses, et le phénomène qui vient juste après, qui est l'intégration à l'intérieur de ces groupes des sous-traitants. C'est-à-dire que la richesse horlogère historique, qui reposait sur les petits établisseurs, répartis dans tous les villages, dans toutes nos vallées. Aujourd'hui, à la fois l'horlogerie fonctionne très bien, et beaucoup mieux que, évidemment, dans les années 70 ou 80, mais en même temps, cette richesse-là, elle peut avoir peut-être tendance à disparaître. Non pas que les groupes soient des gens moins compétents que les indépendants, mais il y a quand même des logiques de groupe qui s'installent. Et voilà, j'aimerais avoir vos avis là-dessus.
Alors, Monsieur Pache et puis Michel Jalon.
Effectivement, une des forces de l'horlogerie suisse, c'est sa diversité. Cette diversité, elle repose sur ces deux structures que vous avez évoquées, à savoir des groupes et des marques indépendantes. Et on a besoin des deux, à mon avis, pour l'avenir de la branche. Les groupes, parce que ce sont quand même des forces de frappe qui sont importantes sur les marchés et qui ouvrent peut-être aussi le chemin. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est en général les groupes qui commencent en premier lieu sur les marchés émergents. Après, et les autres arrivent. Et puis les marques indépendantes, parce qu'elles sont très réactives, elles sont proches de leurs consommateurs, elles peuvent occuper aussi des segments de niche, elles sont très flexibles, et elles contribuent à cette richesse. Et pour que tout ça puisse continuer, ben, il faut qu'il y ait des sous-traitants qui puissent alimenter ces deux canaux. Donc, c'est vrai qu'il faut espérer que cette structure continue à l'avenir. Et peut-être qu'aussi, des fois, les choses appellent leur contraire. Et s'il y a trop de concentration, on assiste peut-être de nouveau à l'émergence de sociétés indépendantes. On le voit au niveau du commerce de détail. Et on sait qu'il y a des détaillants qui souhaitent travailler avec des marques indépendantes pour ne pas dépendre que des groupes, n'est-ce pas ? Donc, je veux dire par là que j'espère que finalement, on puisse continuer d'évoluer dans ce segment. Avec des groupes et des marques indépendantes. On le voit aussi peut-être, et là, le renforcement du Swissmade va peut-être nous aider à maintenir ce critère, puisqu'on est persuadé qu'un renforcement du Swissmade va augmenter les productions de composants en Suisse et augmenter le nombre d'acteurs dans la fabrication de composants en Suisse. Alors, j'espère que ça va aller dans cette direction, mais c'est ce qu'on prévoit. Et c'est aussi ce qu'on sent un peu. Hein. Alors, ce n'est pas forcément que des acteurs suisses, hein, ça peut être aussi des acteurs étrangers, mais qui viennent en Suisse. Et on assiste aussi à ce phénomène de voir des entreprises étrangères venir en Suisse dans cette optique-là. Mais vous mettez le doigt sur un sujet important. Et, historiquement, l'horlogerie s'est développée selon ces deux axes, sur l'axe d'une structure horizontale, mais aussi sur l'axe d'une structure verticale. Et je pense que c'est bien de poursuivre dans cette direction.
Merci. Marc Pfister, et puis après Michel Jeannot.
Je suis très sensible à votre question. Il y a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette tendance à la verticalisation d'une entreprise, c'est pour assurer son autonomie. C'est, le monde horloger, c'est quand même un panier de crabes. Hein, on vit dans la confidentialité, donc on n'aime pas trop travailler avec des sous-traitants. Mais là derrière, je partage votre questionnement, votre interrogation, et puis les risques qu'il peut y avoir, c'est en termes de déperdition de savoir-faire. Si je prends des exemples très, très pointus, mais peut-être que vous vous y reconnaîtrez, si vous prenez un exemple avec un graveur, nous, on forme, on est de nouveau, je fais mon malin aujourd'hui, on est la seule école au monde à former des graveurs de ce type-là. C'est uniquement pour le tout haut de gamme horloger. La dernière chose que veut un graveur qui sort chez nous, c'est de travailler pour une entreprise. Alors au début, nous, on leur dit, non, mais allez vous faire les dents et puis allez travailler pendant 4-5 ans pour comprendre ce que c'est que l'entreprise, l'ADN d'une entreprise, etc. Mais à terme, oui, c'est bien de travailler en qualité d'indépendant parce que vous aurez affaire à une diversité de produits et puis vous allez pouvoir accéder à des nouveaux savoir-faire, à l'exercice de nouveaux savoir-faire où c'est pas le cas si on travaille pour une seule entreprise. Il y a je vais pas citer le nom, mais il y a plus qu'une véritable grande émailleuse en Suisse. Il y en a une. Ça fait des années que Piaget, puis que Patek aimerait bien la phagocyter dans l'entreprise. Elle a toujours refusé, mais elle a raison. Et la raison, c'est pas pour par volonté d'indépendance face à une entreprise, mais c'est par rapport à l'acquisition de nouvelles connaissances et de la diversité des travaux qui peuvent lui être proposés.
Michel Janot, Marc Fusser vient d'utiliser le mot phagocyté. Est-ce que le journaliste spécialisé, il sent, il ressent, il redoute ce phagocytage de l'industrie horlogère suisse, par notamment les grands mouvements, le rachat de Corom et d'autres, Louis Erard encore un peu plus en avant. Comment vous vivez ça? Comment vous sentez ça?
C'est vrai que les mouvements de concentration sont plus forts que jamais depuis 15 ans. C'est vrai aussi que l'horlogerie a toujours été en mutation. Alors là, c'est une vraie mutation profonde, mais il fut un temps où les producteurs de mouvements vendaient leurs mouvements à des marques qui vendaient les montres. Et puis aujourd'hui, les marques produisent leurs propres mouvements pour les vendre et les producteurs de mouvements sont devenus des marques, etc. Il y a des mutations importantes comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une perte de substance et ça paraît une évidence. La concentration dans les groupes et entre les mains de quelques groupes de nombreux savoir-faire, il y a une perte de substance. Cela dit, il y a toujours quand même des retours de balancier et on voit bien que certaines choses qui se faisaient ailleurs ou à l'étranger, en Chine en particulier, reviennent en Suisse aujourd'hui sous la pression de l'éventuelle augmentation des exigences SwissMed, mais pas seulement, etc. Et puis, il y a aussi le fait que les savoir-faire dont on parle, l'émail, les graveurs, les ciseleurs, une foule de savoir-faire qui avaient pratiquement disparu. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la valeur ajoutée. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est ça qui fait la valeur ajoutée. Donc, c'est ça qu'on essaye de renforcer. On essaye de former. Alors, il y a peu de formation. Parce que, effectivement, c'est quelques artisans. C'est quelques artisans dans certains métiers. Et il faudra du temps. Mais c'est à l'évidence des métiers d'avenir. Et c'est à l'évidence, par ces métiers-là, que l'horlogerie suisse va pouvoir continuer à se distinguer.
Oui. Alors, une intervention dans la salle, puis une deuxième ici. Je vous passerai le micro après.
Merci. Je ne suis pas directement impliqué dans le monde horloger, mais je travaille dessus puisque je fais ma thèse sur la transmission du savoir-faire à l'Université de Neuchâtel. Et j'aurai quatre petites interventions à faire, dont les deux dernières concernent plus généralement la table. Et j'aimerais bien avoir vos avis. Mais la première des choses, je voulais juste répondre à M. Pfister que... Il faut faire attention, Madame Anita Porchet n'est pas la seule émailleuse de talent indépendante à cette heure-ci en Suisse. Elle a effectivement ouvert une brèche qui a permis à pas mal de jeunes artisanes ou artisans de se reformer sur le tas. Et donc effectivement, il y a un renouveau qui se passe aussi à ce niveau-là. La deuxième remarque que j'aimerais faire concerne le rapport entre le statut de chercheur ou d'historien et le monde de l'horlogerie, en signalant quand même que ça pose des enjeux déontologiques et éthiques assez importants pour les jeunes chercheurs, dans la mesure où, si vous regardez actuellement dans l'arc jurassien, toutes les grandes marques et moins grandes ont en leur sein un ou plusieurs historiens dans leur département de communication pour s'occuper du patrimoine, pour valoriser les archives, pour créer une histoire, et qu'à ce titre-là, il y a effectivement un enjeu de lutte qui n'est pas nécessairement aussi lisse que ce qu'on veut bien pouvoir présenter dans la communication. Les deux autres remarques concernent le rapport en fait à la transmission. Il se trouve que j'ai pas mal travaillé sur la formation à la transmission du métier aujourd'hui, et qu'il y a quand même différents paradoxes qui émergent des recherches qu'on a pu faire avec les écoles. Par exemple, je pense que vous êtes, M. Fista, bien placé pour le savoir, les écoles d'horlogerie aujourd'hui ont beaucoup de peine à former comme elles le souhaiteraient, dans une espèce d'adéquation et un partage avec les marques, pour différentes raisons. Mais on arrive dans un moment où on n'a sans doute jamais autant capitalisé sur la transmission du savoir et le savoir-faire dans la publicité horlogère. Malgré cela, quand vous parlez avec les acteurs du monde des écoles, elles disent qu'elles n'ont pas nécessairement accès à des facilités en termes d'approvisionnement en pièces. Les marques ne refusent pas de former, mais forment très peu. Il y a 15% des apprentis qui sont formés en dual, c'est absolument peu. Et des grandes marques historiques comme Girard Perregaux, par exemple, ne prennent absolument aucun apprenti. Et à côté de ça, en parallèle, ils capitalisent sur la tradition, sur le nouveau visage de la tradition. Et donc ça pose un premier problème. Le deuxième problème, c'est ces 10 dernières années, effectivement, on l'a vu, la valeur des montres, les exportations en termes de valeur ont vraiment augmenté. Ça, c'est lié au fait qu'on exporte plus de montres compliquées. Et parallèlement à ça, depuis 15 ans, le métier de l'horloger, en termes de politique de formation, a été morcelé. On l'a valorisé maintenant, soit les formations modulaires, en créant des formations partielles, soit les formations d'ingénieurs, en formant directement des constructeurs horlogers dans les écoles d'ingénieurs. Autrement dit, ce retour de manivelle qui va arriver dans 5 ou 8 ans, personne ne l'a prévu. Le service après-vente de ces montres compliquées n'a pas du tout été pensé adéquatement, dans la mesure où les horlogers formés avec 4 ans d'études ou des choses comme ça seront plus habilités, seront plus suffisamment nombreux pour réparer autant de montres compliquées. Et ça pose un grand paradoxe et un grand problème.
Alors, Monsieur Page, peut-être, avec ensuite Marc Fister. Moi, j'ai juste entendu tout récemment quelqu'un qui me disait, ouais, en fait, là, du côté de la Fédération horlogère, ils sont contents, ils ont un peu réglé le problème. Cette fois, ça marche bien en matière de formation. Alors là, on entend un petit peu le contraire. Qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, pour moi, c'est facile à répondre. Et malheureusement, je vois un peu botter en touche, parce que la formation horlogère, c'est pas l'objet de la Fédération horlogère, mais de la convention patronale à Chaux-de-Fonds. Ils ne sont pas là ce soir. Donc là, c'est plus difficile pour moi de prendre position sur la formation, puisque c'est pas
partie de notre activité. Par rapport à la formation.
Alors, écoutez, la formation, ça reste un enjeu. Et si la Suisse veut rester première au niveau mondial, elle doit investir dans la formation. Parce qu'il faut innover. Donc, pour innover, il faut cette formation. Bon, j'ai cru comprendre que l'année passée, on n'a jamais eu autant d'apprentis dans l'horlogerie, je crois. Hein. Je crois que c'est juste. Donc, c'est un bon signe, quoi, que le nombre d'apprentis augmente. Maintenant, le combat entre dual et en école, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas un spécialiste. C'est un débat au niveau suisse, hein, de toute l'économie suisse, pas seulement lié à l'horlogerie. Est-ce qu'il faut favoriser l'un plutôt que l'autre? Je pense que le dual est très important, mais là, je me sens pas à l'aise, pas assez compétent pour prendre position. C'est vrai que le service après-vente, ça peut être un point faible. Et chez certaines marques, c'est un point faible. Parce que c'est bien de vendre toujours plus de monde, mais il faut les réparer dans des délais assez courts. Et il faut les réparer, pas seulement en Suisse, mais sur place. Et il y a des enjeux importants. Je pense notamment à la Russie qui a lancé une nouvelle loi il y a 2 ans, je crois. Et finalement, le consommateur a droit à une réparation dans le mois qui suit. Et ça, je peux vous dire que c'est un sacré problème pour l'horlogerie. Alors, pas pour tous les types de produits. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais les montres ont été émises dans une catégorie de produits. Selon la loi russe, on peut discuter si c'est juste ou pas, mais c'est comme ça. Et il faut réparer dans le mois qui suit, alors que dans d'autres catégories de produits, c'est plus lent. Mais juste cet exemple pose un problème du SAV en Russie, par exemple, n'est-ce pas? Donc il faut investir dans la formation en Suisse et à l'étranger pour répondre à ces questions de SAV.
Sur ces questions de formation, Marc Fister?
Non, effectivement, il n'y a pas que Anita Porcher. Mais elle est plutôt bonne dans son domaine. Ce que vous évoquez est effectivement une réalité à laquelle moi-même, hein, en tant que directeur d'institution, fais face. Extrêmement difficile d'obtenir des mouvements. Je viens donc avant-hier de remplir le contrat avec ETA pour réussir à obtenir 12 mouvements écoles, enfin bref. Mais moi j'ai déjà ma stratégie. J'organiserai une conférence de presse lorsque je déciderai de m'approvisionner en Chine. Ils me coûteront nettement moins cher. Hein. Cela dit, c'est effectivement un des problèmes qu'on peut rencontrer en termes de participation des milieux industriels, alors qu'on travaille pour eux. Hein. On travaille vraiment que pour eux. L'autre côté, c'est vrai que par rapport à la formation que moi j'offre, ils doivent partir 9 semaines en stage. Ils trouvent tous des places de stage. Et puis, pour le moment, je croise les doigts, tous les diplômants qui sont sortis ont tous trouvé un travail dans nos manufactures. Il y a toujours cette notion du secret, hein, puis de la confidentialité qui fait que ça entrave, par exemple, des partenariats flexibles avec des écoles. Moi, je dirige pas une école technique. Vous avez évoqué le problème avec les horlogers, mais c'est une réalité. C'est pas mon dicaster, mais c'est une réalité. C'est difficile aussi de mettre sur pied des partenariats flexibles école-entreprise où un apprenti passerait dans plusieurs entreprises pour ces raisons même de confidentialité. Ça, c'est un écueil, je crois, qui sera difficilement surmontable. Et puis, pour jeter un petit peu le pavé dans la mare, en ce qui concerne la répartition duale plein temps, eh bien, je vous rappelle simplement que la législature, qui est finissante maintenant, mais qui va bientôt recommencer dès lundi, elle a décidé, pour des raisons uniquement économiques, de supprimer au maximum les écoles à plein temps. Je vous passe les raisons, les moyennes nationales, etc. Mais en particulier dans le monde de l'horlogerie, je me permets, moi je ne fais pas de politique active, de quand même tirer une petite sonnette ou bien juste un petit feu orange en disant attention, parce que les entreprises n'ont jamais été très philanthropiques, et puis elles engagent quand ils ont besoin, et puis on enlève quand on n'a plus besoin. La perception qu'ils ont, et puis la vision stratégique de la formation, ce n'est pas nécessairement leur tasse de thé. Hein, ils ont d'autres champs à fouetter, marketing, attaquer le marché chinois, etc. Mais les écoles sont quand même aussi des gardes savoir-faire. Et puis la crise qui avait été évoquée, en passant de 90 000 personnes à 30 000 tout à coup dans le canton de Neuchâtel, il y a énormément de savoir-faire qui ont complètement disparu. Parce qu'ils ont été complètement évincés des entreprises. Il n'y avait plus aucune école qui formait. Et puis voilà. Je rebondis juste, dernier exemple, mes fameux graveurs. Alors oui, c'est des effectifs confidentiels. On en prend 2 et 3 par année. Donc chaque année, il y a 2 à 3 graveurs qui sortent sur le marché. Il n'en faut pas plus. Il n'y a pas besoin d'inonder le marché, mais il n'en faut surtout pas moins. Et puis s'il n'y avait pas une école comme la nôtre, qui depuis 1870 forme des graveurs, et puis moi je tiens à en former en tous les cas tant que je serai à cette place-là, c'est bien aussi en termes, pas de musée, de vieux savoir-faire, et puis on les met dans une vitrine, mais on sait qu'avec les aléas, tout à coup, il n'y a plus besoin de trop de graveurs, mais tout à coup, on en recherche. Qu'est-ce qui s'est passé avec les émailleurs? L'école formait des émailleurs, finie dans les années 70, terminée, puis maintenant, c'est exclu de remonter une école dans ce domaine-là. Il s'est passé la même chose avec les guillocheurs, et j'en passe, et puis maintenant, l'industrie, y pleure.
Moi, j'ai une question pour Madame Souji et Monsieur Hansens, qui est un peu émotionnelle peut-être, mais on a parlé de cette crise horlogère qui a vu s'effondrer les effectifs et peut-être s'effondrer aussi l'affectif et le prestige d'être dans l'horlogerie. Et il y a eu toute une période où travailler dans l'horlogerie, c'était un petit peu par défaut, il fallait y aller, c'est si on ne trouvait rien de mieux. Est-ce que vous avez le sentiment que la renaissance, le renouveau de l'horlogerie suisse qui a redonné cette fierté, cette appartenance à un pays horloger, ou en tout cas d'être issu du berceau de l'horlogerie, contribue, participe à la profondeur, à la force de frappe des produits suisses dans le monde, parce qu'on sent bien qu'il n'y a pas juste du savoir-faire, de la technique, mais il y a un amour de toute une région, de tout un pays. Je crois que c'est Karl Marx qui avait écrit dans le Capital que le plus bel exemple au monde de ville mono-industrielle était La Chaux-de-Fonds. Et il citait le nombre d'horlogers dans la ville de La Chaux-de-Fonds qui était organisé, ce qui a valu à La Chaux-de-Fonds le prix UNESCO pour son patrimoine architectural. Mais est-ce que vous pensez ça en tant qu'historienne, que ce parcours-là, ce vécu-là,
cet affect pour l'horlogerie. Et peut-être que Marc Fisset pourrait dire aussi qu'il y a plus de jeunes qui sont attirés par des formations horlogères, que c'est redevenu un peu fun et sexy d'aller dans l'horlogerie.
Je ne sais pas trop quoi vous répondre, parce qu'effectivement, là, on est dans du très contemporain. J'ai l'impression qu'il y a quand même, et c'est aussi un écho à la discussion qui a eu lieu tout à l'heure sur la concentration, il ne faudrait pas non plus minimiser la façon dont certaines grandes maisons se réemparent, alors peut-être tardivement on peut le regretter, de certains métiers d'art, hein, et du coup donne aussi à cette industrie qui est effectivement une industrie de production de technique, eh bien cette aura grâce à la préservation de certains savoir-faire. En tout cas, elle communique beaucoup là-dessus et participe à cette image de produits très haut de gamme, très luxueux, de haute horlogerie, fait sur mesure et sur lequel on va justement aller rechercher des savoirs qui sont presque éteints, comme si l'étroitesse de... Et c'est une enseignante qui le dit... comme si l'étroitesse de la formation redonnait un regain d'intérêt pour des formations et pour des professionnels qui vont être beaucoup plus désirés justement par ce millier d'entreprises. Donc d'une certaine façon, c'est une situation paradoxale. Je pense que les creux qui ont été observés dans les filières qui ont été présentées tout à l'heure, eh bien, sont aussi un puissant stimulant pour des produits de très haute gamme et pour justement redorer un peu le blason, peut-être. Mais c'est une appréciation.
Monsieur Hanson, sur maintenant le marketing dans les pays émergents, est-ce que ce patrimoine, cet esprit de groupe, cette tradition, cet arc jurassien, ça peut être exploité, c'est ressenti, c'est peut-être en filigrane, c'est peut-être en deuxième degré, mais est-ce que c'est porteur?
Ok, alors... À la question de savoir si cet engouement, cette fierté d'être horloger qui pourrait émaner de cette euphorie de l'industrie sur ces dernières années a un impact sur la performance de l'industrie à l'étranger, je ne peux pas y répondre de façon très sérieuse. Par contre, ce que je peux donner comme petite anecdote, c'est l'utilisation effectivement qu'en font les marques dans certains pays. Je repense à des petites expériences, notamment à l'époque où je me promenais dans des petits shopping malls de Chengdu, et donc qui est une micro-ville de 5 millions d'habitants en Chine. Je me baladais dans un petit shopping mall et à un moment je rencontre une petite boîte un peu cachée comme ça dans le shopping mall, et là je vois la fameuse lunette de l'horloger, et j'ai pu rencontrer en fait au travers de cette expérience toute une multitude d'horlogers non pas suisses ou de personnes qui maîtrisaient des savoir-faire mais qui n'étaient pas d'origine suisse, qui n'étaient même pour la plupart jamais venus en Suisse, mais qui maîtrisaient ou qui devaient représenter ce savoir-faire de la Suisse à l'étranger. C'était juste une petite anecdote que je voulais partager, mais qui m'avait en tout cas pour moi assez surpris dans la façon dont certaines marques vont, je pense par exemple à Vacheron Constantin, vont mettre en avant leurs horlogers ou leurs spécialistes suisses, alors que d'autres marques ont préféré mettre en avant des horlogers locaux à l'étranger qui participaient en tout cas de cet enthousiasme de notre industrie et qui parlaient d'éléments techniques, dans un anglais assez sommaire où mon chinois ne permettait pas de parler technique horlogère non plus, mais en tout cas qui en parlaient avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fierté. Ça, c'est quelque chose qui m'avait énormément surpris. Voilà, c'est tout ce que j'ai.
Aussi une anecdote, si vous le permettez, on parle de l'engouement des jeunes pour l'horlogerie. Alors, je l'ai relevé tout à l'heure, la formation technique, ce n'est pas notre activité. Par contre, on est en contact avec plutôt les universités. Et j'ai vraiment remarqué ces 10-15 dernières années l'engouement de jeunes pour faire des travaux sur l'horlogerie. Maintenant, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'à l'AFH, on ait des étudiants de Saint-Gall, de l'Uni de Zurich, de Bâle, de Berne, voire même de l'étranger, d'Allemagne, qui veulent travailler sur un projet de l'horlogerie suisse. Et ça, c'est lié en grande partie à la réputation. Il y a 15 ans, ça n'arrivait jamais. Jamais un étudiant de Saint-Gall qui nous téléphonait en disant « je vais faire mon travail sur l'horlogerie suisse ». Et maintenant, ça arrive très régulièrement. Donc, il y a aussi cet aspect-là.
J'aimerais juste entendre Michel Janot sur cette dimension fierté régionale. Est-ce que dans l'appréciation de vos collègues, des journalistes spécialisés étrangers, que ce soit des pays émergents ou des autres pays européens, est-ce que vous avez le sentiment que ça les touche, qu'ils le rapportent à leurs lecteurs, que c'est quelque chose qu'ils transmettent, qu'ils véhiculent ou pas ?
Oui, oui, j'ai l'impression que de toute façon, les gens qui traitent d'horlogerie ou qui en parlent, ou ils ont la passion, ils le font quand même parce qu'ils aiment ça et qu'ils comprennent la dimension. Et ce sont aussi des ambassadeurs, au même titre que les horlogers sur place, etc. Cela dit, il ne faut pas non plus... on n'est pas dans le monde des babibouchettes, quoi, je veux dire. Et donc, c'est des machines de guerre de vente, quand même, les groupes, on a bien compris ça. Et que si la presse horlogère, si on peut s'interroger... Si aujourd'hui, est-ce qu'on arrive encore à éviter l'information horlogère, ben c'est parce qu'il y a des pressions invraisemblables. Parce qu'aujourd'hui, si les médias veulent parler d'horlogerie, ce n'est pas seulement pour intéresser ou répondre aux quelques lecteurs qui sont intéressés, c'est aussi parce que les horlogers sont de très gros annonceurs. Et en Suisse, on le voit bien, mais pas seulement en Suisse, à l'étranger. Les plus gros médias aujourd'hui, que ce soit imprimé ou multimédia ou Internet, ils ont tous des sections horlogères. On a des collègues qui viennent de tous les gros médias et ils parlent. Et aujourd'hui, Jean-Claude Biver est plus connu que le CEO de Crédit Suisse. Donc, il y a une surmédiatisation, mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais c'est aussi, c'est pas juste pour l'argent et par l'argent. C'est aussi parce que voilà, on doit communiquer, on doit éduquer, on doit expliquer. Et je pense qu'effectivement, les journalistes étrangers participent aussi, se nourrissent mais comme nous, on se nourrit de l'horlogerie, mais on participe aussi, on essaie d'accompagner le succès et d'expliquer ce qu'est l'horlogerie. En fait.
Je vous remercie. Marc Pfister.
Ouais, loin de moi de casser la beauté poétique de cet engouement affectif par rapport à cet objet extraordinaire, etc. Je ne suis pas sociologue, mais économiste, mais aussi peut-être un élément de réflexion, c'est que les métiers de l'horlogerie aujourd'hui offrent des perspectives d'emploi.
Donc voilà, très prosaïquement dit. Est-ce qu'il y a dans la salle d'une intervention une question ? Oui, monsieur, on vous invite, vous passerez le micro, je passe le mien.
Bonsoir, Pierre-Yves Sandeau, je suis l'initiateur du projet Swisswatch Arena pour faire la promotion justement des métiers de l'horlogerie notamment. Et puis je suis toujours très surpris finalement qu'il n'y ait pas plus de ce qu'on appelle le marketing territorial lié à l'horlogerie en Suisse, où finalement on parle de l'image de la Suisse à travers des montres, même si elle ne représente que 1,5% du PIB, mais par contre l'image à l'étranger, si on vend notre image à l'étranger, c'est toujours à travers l'horlogerie. Ma question en fait un peu est la suivante, pourquoi finalement sur le territoire suisse on parle tellement peu de ces métiers de l'horlogerie pour intéresser aussi les jeunes. J'adhère totalement à la position de Marc Pfister concernant cette formation où finalement dans le canton de Neuchâtel 16 000 emplois sur les 90 000 que compte le canton sont liés à l'horlogerie. Et puis finalement quand on regarde les chiffres qui étaient transmis par la convention patronale de l'industrie horlogère, 350 un peu plus de 300 apprentis, est-ce que c'est suffisant finalement pour répondre aussi, on parlait avant du service après-vente. Dans le monde, on produit plus de 29 millions de pièces à l'étranger. Et puis au niveau de la formation dans le canton de Neuchâtel, finalement, 350 horlogers, c'est presque dérisoire. Alors, comment faire la promotion finalement de ces métiers qui sont finalement presque inconnus auprès des jeunes? Et puis, qu'est-ce qu'on envisage de faire dans le cadre de cette formation?
Bon, je ne crois pas qu'on peut dire que ces métiers sont inconnus, puisque si je suis bien renseigné, les écoles d'horlogerie sont pleines. Hein, donc les capacités sont utilisées. Il faut aussi relever que si on prend l'emploi horloger, l'horloger qualifié au sens juridique du terme, hein, c'est 5%, 7% des effectifs. N'est-ce pas ? On n'a pas besoin d'horloger pour faire toutes les opérations liées à la construction horlogère, n'est-ce pas ? Donc il faut aussi un bon mixte au niveau des emplois. Il peut y avoir des opérateurs en horlogerie. parce que l'horloger, il faut l'utiliser pour ses compétences. Et on ne va pas l'engager pour, je sais pas, changer des piles à longueur journée, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi cet aspect-là. Hein, donc, on n'a pas besoin de 50 000 horlogers hein, dans l'industrie horlogère suisse, beaucoup moins. Ensuite, ça ne suffit pas, évidemment, pour le SAV au niveau mondial. Il faut former sur place, n'est-ce pas? Il faut former en Chine, il faut former au Japon. Et donc là, il y a aussi l'engagement, évidemment, des pouvoirs publics, mais l'engagement des marques. Et on voit que les groupes ouvrent des écoles dans ces pays-là. Alors, j'espère que ça suffira. Je ne connais pas tous les chiffres. Mais c'est aussi important d'investir à l'étranger dans la formation et pas seulement en Suisse.
On a une école ici à Neuchâtel, l'école Vostep. Puis souvent, elle se plaît en fait des moyens même qu'on lui met à disposition dans le canton pour former ces horlogers qui partent à l'étranger. Quand on regarde la proportion des gens qui sont dans cette école Vostep, pas beaucoup de Suisses, beaucoup des gens qui viennent d'Asie. Selon les chiffres qui sont donnés par Martin Peter, ce directeur, à peu près 95%. Je trouve quand même très surprenant, finalement, il y ait aussi peu de jeunes neuchâtelois qui s'y intéressent à ces écoles et pourquoi pas partir à l'étranger, parce que c'est à peu de la langue ou autre, mais je suis assez surpris.
Attention, le Vostep, c'est une institution privée et en fait, elle est très utile pour la formation à l'étranger, pour des jeunes qui n'ont pas la possibilité d'être formés dans leur pays, parce qu'il n'y a pas d'école d'horlogerie, n'est-ce pas? Donc le jeune Suisse, ben, il a accès aux écoles publiques, aux écoles horlogères publiques, ou à l'école de M. Pfister, mais certains étrangers, en Asie ou autre, ils n'ont pas d'école auxquelles ils ont accès. Et donc ils viennent au Vostep pour se former dans ces métiers horlogers. Donc ce n'est pas surprenant qu'il y ait plus d'étrangers que de Suisses au Vostep. C'est un peu sa vocation.
Alors on arrive au terme de ce café scientifique, peut-être une dernière intervention brève dans la salle, monsieur brièvement.
Oui, je m'appelle Gérald Beausire, je suis ancien instituteur, et c'est à propos de ce que monsieur a dit concernant la jeunesse, concernant notre jeunesse. J'ai toujours été... Une simple anecdote, j'entre, la seule profession qui me fait entrer au GT à Genève chaque année, enfin depuis qu'il existe, c'est passionné d'horlogerie. Voilà, donc c'est simplement ça. Mais ça a pris une certaine extension et j'ai toujours voulu, venant de la Chaux-de-Fonds en plus, j'ai toujours voulu essayer de communiquer à mes élèves. Et là, je parle de petits hein, encore. J'avais des degrés primaires, 3, 4, 5 ou 4, 5 degrés moyens. Mais je me disais que c'était peut-être... et comme certains sont devenus horlogers, voire ingénieurs, constructeurs ou autres, je me dis bah, que quand même, il y a un tout petit... Je ne vous dis pas qu'il y en a des milliers, mais il y a un tout petit boulot qui peut se faire déjà à l'école. Et je me permettrai de vous signaler, sans entrer dans les détails, qu'il existe maintenant à la médiathèque de l'HEP notamment, des choses... On ne prétend pas faire d'eux, et je ne prétends pas faire d'eux des horlogers. Je donne de temps en temps un cours à des collègues qui veulent se lancer dans le sujet, etc. Un cours, c'est un grand mot, une information, un soutien, si vous voulez. Mais en fait, voilà, je me dis que ça peut être un départ, ça peut être un début. Donc il existe du matériel, il existe... Il existe pas mal de bouquins, j'en avais trié, simplifiés, qui permettent à des jeunes d'entrer là-dedans.
On a compris. Donc, le message, c'est bon.
On s'en préoccupe quand même. Oui, oui. Je ne veux pas dire tout le corps enseignant, mais...
Et c'est tout à votre honneur.
Un certain nombre. Eh bien oui, maintenant, bah, écoutez, je vous remercie.
On arrive au terme de ce café scientifique. Je propose aux intervenants, peut-être, et à M. Cladny, un petit exercice de style. Là, on a beaucoup parlé des succès, des raisons, des clés... des choses qui peuvent un peu inquiéter, alerter. Il y a eu des petites sonnettes d'alerte. Alors, je vous proposerai à chacun, mais alors très brièvement, très succinctement, de nous dire quel est, selon vous, le chantier le plus urgent sur lequel les horlogers suisses doivent plancher pour assurer et perpétuer, sur le très long terme, de rester au sommet mondial. Michel Janot, le plus urgent.
Non, mais je pense que c'est indiscutablement le chantier de la formation, parce qu'il y a des besoins, et c'est des métiers d'avenir, donc on ne comprend pas très bien toujours pourquoi on n'arrive pas à former. En même temps, il ne faut pas tomber dans la caricature, et c'est vrai que la difficulté, c'est aussi de ne pas former uniquement ce que veut l'économie ou ce que veut l'industrie, et on voit bien que le débat, il est toujours là, mais honnêtement, moi, je crois que le grand chantier, c'est la formation, et d'avoir assez de monde pour pouvoir produire toutes les montres qu'on pourrait vendre.
Monsieur Page.
Écoutez, je ne veux pas répéter ce qu'il a dit. Alors, moi, je dirais le grand chantier, c'est le renforcement du Swiss Made et la pérennisation de l'activité industrielle en Suisse. Toute l'Europe parle de réindustrialisation. Là, on a un moyen, effectivement, de passer de la parole aux actes.
Donc, formation Swiss Made, Madame Sougy.
Je ne sais pas très bien quoi vous répondre, alors je vais faire une pirouette. Que les horlogers s'intéressent aux montres pour femmes. Parce que l'indigence des propositions qui sont faites à l'heure actuelle n'est pas à l'honneur du patrimoine qu'il pourra défendre et qui était beaucoup plus intéressant au 19e et sur toute une partie de la première moitié du 20e siècle. Voilà.
Joli coup de griffe final. Mm-hmm. Monsieur Hansen.
Oui, donc moi je vais aller dans le sens de Monsieur Pache. J'avoue qu'au travers de mes voyages en Chine, j'ai été très impressionné par le développement du niveau de technique qu'ils ont pu acquérir, grâce notamment à certaines stratégies qu'ont eu certains groupes au niveau du développement de certains de leurs produits en Chine. Je pense qu'il y a vraiment une priorité de rapatrier une grosse partie de notre savoir-faire en Suisse le plus rapidement possible. Il y a des très, 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 très belles entreprises qui se développent à l'heure actuelle en Chine. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler pendant Baselworld. Il y a là, pour moi, un réel challenge pour l'industrie suisse de se démarquer et de surtout de ne pas faire ce qui est arrivé dans pas mal d'autres industries. On avait parlé notamment de l'industrie aéronautique. Voilà. Donc voilà.
Alors Marc Pfister, le chantier le plus urgent, c'est...
Je ne vais pas parler de la formation. Hein.
C'est une façon
sans cesse innover, c'est la clé de l'avantage compétitif. Les Chinois, ça a été dit, ils arrivent à maîtriser sur le plan technique bien des choses. Sur le design, je suis encore tranquille, moi. Et puis l'autre chose, puisqu'il n'a pas trop osé le dire, le 60% Swiss made.
Oui, il l'a dit quand même, merci. Alors le mot de la fin revient à un intervenant. En matière de stratégie de communication, quel est l'axe où les horlogers suisses ont le plus à faire ou le plus de cartes ou les améliorations les plus importantes à apporter? Est-ce qu'il y en a...
Non, écoutez, franchement, mes collègues ont vraiment répondu, mais je pense que le thème de l'industrialisation, il est extrêmement important. Je crois qu'on fabrique des choses extraordinaires. Ça requiert l'enjeu, c'est de ne pas perdre les savoir-faire. Donc, transmission, formation, garder de l'industrie, je crois que c'est vraiment les clés. Hein.
Voilà, je vous remercie. Merci à tous les participants. Merci beaucoup à nos intervenants. Vous avez vu que le temps est très maussade, mais pour les cafés scientifiques, c'est déjà la pause estivale, puisque le prochain rendez-vous, c'est mercredi 4 septembre. Il sera question de toute autre chose. Le titre, c'est « Écrivain, tueur, cherche, éditeur ». C'est sur certains écrits qui peuvent faire polémique et qui sont malgré tout édités. Donc si ça vous intéresse, prenez note pour le 4 septembre. Je vous remercie, je pense qu'on peut applaudir nos intervenants de ce soir parce que c'était riche, c'était nourri. Merci à vous. Et merci une nouvelle fois alors aux participants pour leurs questions nourries et intéressantes. Merci beaucoup, au revoir.